Métaphysique, Père Philippe, 22 mai 84, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence, pour nous conduire à la vérité tout entière, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire.
Priez-vous,
Saint-Jean.
Priez-vous. Je réponds d'abord aux questions. Et puis après, nous entrerons dans un nouveau secteur. Comment peut-on induire la substance à partir du jugement d'existence, ceci est, qui peut porter sur des réalités corruptibles, donc, qui ne subsistent pas. Ah, pardon. Je subsiste et je suis une réalité corruptible. C'est pas l'opposition. Subsister, c'est dans l'ordre de l'être, la corruptibilité dans l'ordre du devenir. Mais je suis d'accord avec l'objection, c'est qu'il ne faut pas, et je vous ai déjà dit, il faut de plus en plus comprendre que notre philosophie regarde l'homme. Et partons de nous, partons pas du monde physique, parce que j'ai la bouteille à l'encre. Alors, il ne faut pas partir de là. Tout de suite, on vous objectera, mais la physique dit ceci. Alors, vous serez dans des problèmes très difficiles, il ne faut pas partir de là. Il faut comprendre que le philosophe, en raison même du progrès de la science, des sciences, s'occupe de l'homme. Et à partir des différentes parties de la philosophie, on pourra se poser en problème critique. Quelles sont les relations de la philosophie et de la science? Oui, mais je crois que c'est très important. Je me souviens quand j'enseignais au Solchoir la philosophie du vivant, certains étudiants me disaient, alors mon père, vous allez tout de suite commencer pour savoir où se trouvent les vivants, où se trouvent les non-vivants. Je dis non, ça c'est un problème frontière. Je ne pars pas d'un problème frontière. Le philosophe sait que c'est déjà assez difficile de découvrir ce que c'est que le vivant. Alors, savoir jusqu'où va la vie et jusqu'où est le non-vivant, ça c'est un problème extrêmement difficile, parce que de fait, on est en face d'un progrès de la science qui va nous délimiter les choses. Mais c'est secondaire, c'est pas à partir de là que je pars. Je pars des réalités qui sont le plus proches de moi. Comme je sais que l'homme, comme tel, le savant ne le traite pas, puisque aucune science ne peut nous parler de l'esprit. Donc l'homme est abandonné des sciences. Le philosophe le récupère. C'est tellement plus facile. Tandis que si vous partez des domaines qui sont regardés par le point de vue de la science, vous serez toujours devant un conflit. Et c'est là, vous voyez, où je crois le progrès de la science oblige le philosophe d'être plus philosophe. On se pose ensuite la question de savoir que dit le savant sur le monde physique, que dit le philosophe sur le monde physique. Et vous voyez bien, dans l'itinéraire que nous prenons, le monde physique est regardé par le savant à partir du corps de l'homme. Et pas autrement. C'est le corps de l'homme qui m'intéresse. Et parce que le corps de l'homme fait partie du monde physique m'intéresse. Mais pas autrement. Si j'avais une âme purement spirituelle, je ne m'intéresserais pas tellement au monde physique, vous savez. C'est pas tellement drôle, le monde physique. Au point de vue intelligence, intelligibilité du monde physique, c'est très peu de choses. Au point de vue profond, c'est le monde du corruptible, c'est le monde de la, des transformations. C'est parce que mon corps est lié à cela que je ne peux pas abandonner le monde physique. Il fait partie de ma vision humaine. Je suis dedans. Mais alors, je l'aborde non pas comme le savant, je l'aborde en philosophe. Et aborder le monde en philosophe, c'est l'aborder à partir du corps de l'homme, de ce corps vivant. Mais c'est juste l'inverse, et c'est, je crois, ça qui est très important à saisir. Nous avons vu, hein, toute la philosophie repose sur le triangle de base. Rappelez-vous à tout le temps, c'est très important au point de vue manière dont on regarde les choses. Parce que quand on regarde un paysage à contre-jour, vous ne voyez rien. Eh bien, faites, rappelez-vous ça, il faut regarder les choses, non pas à contre-jour. Bon, nous commençons par le travail, l'amour de l'amitié, la coopération. Voilà le triangle de base. Hein. L'homme est directement lié à ma philosophie. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je regarde en premier lieu l'homme travaillant, l'homme aimant, l'homme coopérant. La solidarité. Hein. À partir de là, j'essaie de comprendre quelque chose qui va aller plus loin. Alors, ce sera ma philosophie spéculative. Mais c'est second. À cause du travail, je regarde la matière. La matière m'intéresse parce que je suis lié à cela. Mais c'est à partir de l'homme. Et la matière m'intéresse parce que je suis moi-même un corps qui fait partie de cet univers. Et donc, dans cette partie de la philosophie dite spéculative, je vais étudier ce que c'est que le corps de l'homme. Ici, j'étudie le vivant. L'amour d'amitié conduit au vivant. Et la coopération, nous l'avons vu, conduit à ceci et à la philosophie d'être. C'est d'une certaine manière la partie la moins philosophique qui exige la métaphysique. Hein. C'est très curieux. C'est très très curieux. Par le biais du bien. C'est le bien qui va exiger de découvrir la métaphysique. Ça, ce serait très intéressant à découvrir aujourd'hui. Parce que la métaphysique est tellement enfouie. Il faut la déceler. Alors, je crois que c'est par le biais du bien. Le bien garde l'être. Vous voyez ? Par le biais du bien, parce que ici, je suis en face du bien commun, la coopération, le bien commun, et le bien commun va me conduire au bien transcendant, au bien absolu. Et par là, je découvre le point de vue de l'être. Je crois qu'il y a un détour stratégique très important. Vous voyez, quand on est en face d'une très grande difficulté, il faut savoir prendre du recul. Si vous commencez tout de suite par la métaphysique, on peut, ici on peut le faire, hein, on peut le faire ici. Mais quand vous êtes devant un auditoire hostile à la métaphysique, ce qui arrive assez facilement, n'est-ce pas ? Quand vous êtes en face d'un auditoire hostile, prenez un détour stratégique. Et puis comprenez qu'il faut prendre ce détour stratégique. Alors, par le point de vue de la philosophie politique, très bien, tout le monde comprend. Par le point de vue du bien, par là, vous arrivez progressivement à découvrir ce que c'est. Ce qui est. Vous pouvez avoir d'autres, c'est pas la seule piste, hein. Je peux tout de suite le prendre. Mais voyez ici donc, je suis en face de cette question, comment peut-on induire la substance à partir du jugement d'existence, ceci est. Ce jugement d'existence porte sur l'homme. Bien évident. Puisque j'essaie de saisir substance première, substance seconde. N'oubliez pas les 10 prédicaments que je vous ai dit. J'induis la substance, présupposant les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments me mettent en face de Pierre. Hein, Pierre, je suis Pierre. Hein. Point de vue métaphysique, je suis Pierre. C'est-à-dire, je suis une substance première. Puis, en face de Pierre, j'ai encore. Puis, je découvre après tous les prédicaments. Ceci est présupposé à la métaphysique. Il y a ceci, jugement d'existence. Il y a ces perpétuellement, cette confrontation de la substance première, substance seconde avec ceci qui va me permettre d'induire la substance. Alors je vois la distance qui existe entre substance première et substance seconde, Et c'est cette distance qui existe, dont l'unité se fait par l'être, qui va me permettre de découvrir la substance comme principe. Vous voyez, donc c'est vraiment moi-même qui suis en cause. Ne cherchez pas la substance, je vous avais dit, à partir d'une feuille de papier. Quelle est la substance de cette feuille de papier? Bien, vous chercherez longtemps et vous ne trouverez jamais la substance de la feuille de papier. Et c'est pas commode. C'est comme quand vous cherchez philosophiquement la substance du pain. Et c'est très important de faire ça, parce que ça montre que quand on parle de la transsubstantiation, on n'est pas au niveau métaphysique. On est au niveau de la foi. C'est tout à fait différent. La substance du pain, qu'est-ce que c'est que la substance du pain? Puisque le pain, c'est l'œuvre, c'est une œuvre que l'homme a faite. Donc la substance du pain, c'est la matière du pain. C'est les grains de blé qui ont été broyés. Elle est belle, cette substance. C'est vrai. Les petits pains de Paris, hein, la substance du pain. J'ai cherché ce que c'est. Il n'y a plus beaucoup de substance. Tout est dans l'apparence. Alors, la substance du pain... Oui, parce que il faut qu'il soit chaud quand il est rassis, il est assommant. Vous comprenez? Alors, c'est pas ça qui intéresse. On voit très bien, tout est dans les apparences. C'est comme une œuvre d'art. Alors, quand vous cherchez la substance, et on parle de transsubstantiation, c'est très important de comprendre que le mot transsubstantiation n'est pas au niveau de la substance métaphysique. Alors, vous allez dire, ça sert à rien de faire de la métaphysique. Je ne fais pas de la métaphysique pour comprendre la transsubstantiation. Ah non, non, non. Je fais de la métaphysique pour comprendre l'homme. La transsubstantiation, c'est autre chose. Que si j'ai une métaphysique, ça m'aidera beaucoup à situer exactement le plan de la sacramentalité. Ça m'aidera énormément à comprendre que les sacrements, c'est pas la substance. Ça m'aidera exactement à comprendre tout ce que représente comme invention divine le mystère des sacrements. Ça m'aide beaucoup. Mais je ne fais pas de la métaphysique pour ça. Je fais de la métaphysique pour comprendre ce que c'est que l'homme. Il faut toujours bien comprendre la chose. Et seule la métaphysique s'achevant en sagesse peut aider et éclairer le croyant. Ce n'est pas directement la métaphysique, c'est la sagesse. Et ça, je crois que c'est très important. C'est pour ça que saint Thomas commence la somme, non pas en disant métaphysique, théologie, foi, il dit les trois sagesses. Et on met toujours en parallèle les trois sagesses. La sagesse acquise, naturelle, philosophique, la sagesse théologique au niveau de la foi, et puis la sagesse don du Saint-Esprit. Il n'y a pas un don métaphysique. Il n'y a pas le don du Saint-Esprit métaphysique. Non, il y a un don au niveau de la sagesse. Et c'est au niveau de la sagesse que se fait la confrontation. Donc, vous voyez, je réponds tout simplement de cette manière-là. Alors, comprenons que le problème de la subsistance ne s'oppose pas à la corruptibilité. La subsistance se situe au niveau de la substance se situe au niveau de l'être. L'être comme tel, il est au-delà de la corruptibilité. Mais la manière dont cet être existe, il peut exister corruptible ou incorruptible. Quel lien y a-t-il entre le problème de l'individuation et celui de la subsistance et la phusis? Bon, très bien. Là, on va essayer de préciser. Peut-on voir différents niveaux de subsistance par la distinction des phusis, matière, forme et fin? Le cosmos, le genre animal, l'homme. La phusis, matière, subsiste dans la matière, dans chaque réalité individuelle du cosmos. La phusis, forme, subsiste dans chaque animal de la même espèce. La phusis, fin, subsiste dans chaque homme. Oui, 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 et non, c'est pas tout à fait ça, ça veut rien. On va essayer de préciser. Parce que c'est important de ne pas faire de conflit. Quel lien existe-t-il entre le problème de l'individuation et le problème de la subsistance? Là, nous sommes au niveau métaphysique. Le problème de l'individuation, je vous l'ai dit la dernière fois, le problème de la subsistance, tous les deux regardent l'usine. Tous les deux regardent la substance. Et tous les deux regardent la manière dont la substance existe. C'est la substance qui est l'existence de la substance. La substance est principe, et en tant que je saisis la substance comme principe, l'exister n'est pas extérieur, mais il est implicite. J'explicite en regardant le cause. Comment la substance existe-t-elle? Dans notre monde physique, la substance existe d'une manière composée, d'où le problème de l'individuation. La substance existe d'une manière composée, c'est-à-dire en assumant la matière. Et quand la substance assume la matière, c'est tout le problème de l'individuation. Le problème de l'individuation, c'est le problème d'une substance composée. Et ça se pose puisque je suis une substance composée. Alors, si je regarde l'homme, je suis obligé, ayant découvert la substance, de dire mais comment cette substance principe va-t-elle exister? Bien, elle existe en assumant la matière. Et je vous avais dit que c'était très important. La matière comme telle, la matière découverte en philosophie de la nature, la matière comme telle, donc ici, la matière comme telle, n'intervient pas directement en philosophie première. La matière n'est pas un principe propre de l'être. Il n'y en a que deux qui considéraient la matière comme principe propre de l'être. J'espère que vous devez le savoir, c'est Averroès et Lénine. Et mettez-les ensemble, parce que tous les deux ont dit que la matière était un principe propre de l'être. Et vous voyez, une fois que Lénine a dit ça, il dit donc qu'il ne peut pas exister des êtres séparés. L'esprit n'existe pas. Averroès avait traité le problème différemment, lui. Mais au fond, je vois très bien, si la matière est un principe propre de l'être, tout être qui existe implique la matière. Alors, il peut y avoir des réalités qui sont séparées de la matière. S'il existe des réalités qui sont séparées de la matière n'est pas un principe propre de l'être. Donc il faut bien comprendre que la matière n'est pas un principe propre de l'être. Si la matière n'est pas un principe propre de l'être, et cependant la matière existe, comment la matière existe-t-elle? Elle existe parce que je regarde ce principe propre de l'être, la substance, qui assume la matière. Donc, c'est le pons. C'est par le pons que la matière, donc par le comment, que la matière s'introduit dans la métaphysique. C'est très curieux. C'est très intéressant de voir ça. Parce qu'à l'âme, je suis en face du problème de l'individuation. Je suis en face du problème d'une substance qui va exister d'une manière composée, en assumant la matière. Le problème de la subsistance, c'est d'essayer de comprendre l'unité fondamentale qui existe dans cette composition. Puisque la substance, principe, n'existe que d'une manière composée. Est-ce que, en existant d'une manière composée, va-t-elle perdre son unité? Non. Parce qu'elle subsiste. Alors, je retrouve l'unité. Vous voyez, il y a ce mouvement-là. C'est assez curieux, du reste. Et c'est assez intéressant. C'est peut-être éclairé, ça. Vous voyez, quand je suis au niveau du principe, tout principe est indivisible. Donc, il est un. Tout principe. Si je regarde ce principe lousien, je vois que ce principe n'existe que d'une manière composée. La substance existe d'une manière composée. Donc elle assume la matière. Ce qui est composé par définition n'est plus un. Vous êtes bien d'accord, hein?
Je suis la présence de l'union.
Ce qui, s'il est composé, il y a au moins deux éléments. Il y a matière, puis il y a vivant. Donc il y a une union entre les deux. La matière est assumée par nous y hommes. Puisque je ne suis plus en face de l'unité, je me repose la question, est-ce que la substance est-elle suffisamment conquérante de la matière pour maintenir une unité? Et alors j'ai un problème de la subsistance. La subsistance, c'est la substance qui est suffisamment conquérante de la matière. Elle subsiste. Et donc, je retrouve le problème de l'unité. Et comprenez bien que le problème de l'unité ici et le problème de l'unité là n'est pas le même. Ce sont deux manières différentes de regarder l'unité. Là, je regarde l'unité dans son indivisibilité au niveau du principe. Là, je regarde l'unité dans sa manière d'exister. C'est le pose de l'unité, si vous voulez. Vous aiderez à comprendre. C'est la manière dont l'unité principe subsiste dans la matière. Puisque de fait, pour l'homme, la subsistance est toujours dans la matière. Et c'est très important parce que ça montre comment la substance, pour l'homme, l'âme, est victorieuse de la matière. Elle subsiste dans la matière. Subsistant dans la matière, je comprends comment, par le point de vue de la mort, il y a une séparation, mais elle peut continuer de subsister. Et donc, c'est un peu la victoire de l'unité de la matière sur le composé. Si je ne subsistais pas en tant que dans mon âme spirituelle, il n'y aurait qu'une union. Alors, au moment de la mort, qu'est-ce qu'il y aurait ? Chacun partirait de son côté, n'est-ce pas ? Il n'y aurait pas de, il n'y aurait pas d'unité. Je serais lui-même. Il n'y aurait qu'une union. Donc une union, ce n'est pas nécessairement une subsistance. Quand vous collez un morceau avec un autre morceau, c'est une union. Une union, tous ces morceaux de bois les uns à côté des autres, hein. Ça tient plus ou moins bien. Une union. La colle, ou bien c'est fait d'une façon beaucoup mieux avec un art beaucoup plus grand au point de vue menuisier, alors c'est pas seulement de la colle. Mais quand c'est fait rapidement, c'est de la colle. La colle fait une union. La colle ne fait pas une subsistance. La subsistance, c'est l'anticolle. C'est quelque chose qui est au-delà de la colle. Parce que la colle, c'est une juxtaposition. Alors voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que quand je regarde le problème de l'individuation, je pourrais dire, c'est oui, ça va bien, il y a une union. Quel est le genre de cette union? Quel est le type de cette union? Eh bien, c'est une subsistance. Donc, je retrouve l'unité au-delà de l'union, au-delà de la composition. Et ça, c'est vraiment la substance qui est ça. La substance peut être victorieuse. Vous voyez, d'une simple juxtaposition, d'une simple communion, d'une simple union, elle réalise une unité dans la composition. Unité d'être. Mon être est unique. Je n'ai pas d'un côté l'être de ma matière, de mon individuation, de l'autre côté mon être de mon âme. Alors j'aurai deux. Quand saint Paul nous dit qu'il y a en nous deux hommes, il ne veut pas dire qu'il y a en nous l'homme de l'âme et l'homme du corps, alors ce serait deux hommes, il n'y aurait plus de subsistance. Il y a en nous deux hommes au niveau moral, au niveau de mes activités humaines, mais pas au niveau de ma structure métaphysique. Au niveau de la métaphysique, il n'y a qu'un seul homme qui subsiste. C'est l'âme qui assume la matière. Donc vous voyez comment, par ce petit itinéraire, vous voyez peut-être mieux l'individuation et la subsistance. Et comment la subsistance, d'une certaine manière, vient après l'individuation. C'est mieux de mettre après, c'est ce que nous avons fait, pour corriger. Parce que dans le livre, j'ai pris subsistance avant, je suis trop proche des théologiens en faisant ça. Tandis que là, je vois que non, principe, le pose, la composition et la subsistance. Et les trois problèmes se situent bien l'un après l'autre. Et qu'il faut de fait considérer de cette manière-là. Tandis que si je prends tout de suite le problème de la l'ousia avec la subsistance, je suis dans une perspective théologique. Parce que je sais que mon âme est immortelle. Donc mon âme subsiste. Oui. Le théologien fait ça tout de suite. C'est normal pour le théologien. C'est pas normal pour le philosophe. Pour le philosophe, il doit regarder ce principe, voir comment il existe. Il existe en assumant la matière. Jusqu'où va cette assomption de la matière? C'est que la substance subsiste dans la matière. Et donc, il y a une unité d'être, une unité d'exister à l'intérieur de la matière. Je n'ai pas deux êtres, un seul être. Et ça provient de la substance. Donc, vous voyez, le problème de la substance vient ajouter quelque chose de profond au problème de l'individuation. Alors, dernier problème qui est posé ici, quelle différence avec la phusis? Alors, faisons attention. Là, je suis au niveau métaphysique. Et je parle de phusis, de nature. La nature est découverte au niveau de ce qui est mu. Je découvre la nature forme et la nature matière. Donc, la phusis n'est pas au niveau métaphysique. Le théologien se sert de la phusis, de la nature aussi bien que la substance. Eh bien, il y a eu cette petite querelle au moment de la traduction du credo, en disant dans le credo, consubstantiel, on a traduit de même nature. Alors, les irréductibles ont dit, on fait une erreur. Ils ont tout simplement oublié qu'on est au niveau de la foi et qu'on n'est pas au niveau philosophique. Au niveau de la foi, je peux dire en Dieu qu'il y a même nature ou consubstantiel, c'est exactement la même chose. Parce que je suis au niveau de la foi. C'est exactement la même chose. On ne vous battez pas pour des mots. Il n'y a pas de combat au niveau des mots. C'est exactement la même chose. Donc il ne faut pas se battre là-dessus. Tandis qu'au niveau philosophique, je maintiens la distinction. Il ne faut pas confondre. La phusis, c'est au niveau de ce qui est mu, tandis que la substance est au niveau de ce qui est. Bon, ce qui est mu, l'homme est mu, bien évident. À la fois nous mouvons et nous sommes mu. Quand vous dégringolez dans l'escalier, vous faites l'expérience de ce qui est mu. Ne le faites pas trop souvent, mais bon, vous dégringolez. Tandis que quand vous montez un escalier, vous faites l'expérience de celui qui se meut. C'est pour ça que c'est plus fatigant. Et de l'autre côté, c'est moins fatigant, mais on se fait des bosses. Parce que de fait, on n'est plus principe de son mouvement. C'est la chute libre. L'expérience de ce qui est mu. Et bien, à ce moment-là, vous constatez qu'en vous, il y a une phusis. Oui, il y a une phusis en vous. Il y a une substance et une phusis. Il y a les deux. Donc, la phusis est au niveau de la philosophie de la nature, au niveau de ce qui est mu. Alors, je distingue tout de suite phusis forme et phusis matière. C'est la grande distinction au niveau de la phusis. Mais comprenons bien que cette distinction au niveau de ce qui est mu ne doit pas se retrouver au niveau de ce qui est. Là encore, la scolastique décadente risque de nous troubler beaucoup, parce qu'on retrouvera la distinction de ousia, la substance forme et la substance matière. La scolastique décadente dira ça, et donc ne verra plus la distinction entre phusis et ousia. Parce que l'ousia, je ne peux pas dire l'ousia forme et l'ousia matière. Ça n'existe pas. Je dois dire l'ousia principe selon la forme de ce qui est, qui assume la matière et qui subsiste. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. n'est pas le même itinéraire, si vous voulez. Tandis que transposer la distinction physis-matière et physis-forme au niveau de l'ousia, eh bien, c'est de fait une transposition qui n'est pas exacte. Je ne peux pas projeter une distinction qui est vraie au niveau de ce qui est mu, la transposer au niveau de ce qui est. Je ne peux pas faire cette transposition. Parce qu'il y a deux distinctions différentes. La substance se distingue de la qualité, ce que nous allons voir. La substance ne se distingue pas de la matière. Tandis que la nature forme se distingue de la nature matière. Mais alors là, on touche un problème qui est très intéressant au point de vue philosophique. C'est quand vous avez découvert une division, une distinction, comprenez toujours à quel niveau se fait cette distinction. Et ne transposez pas trop vite cette distinction à tous les autres niveaux. Parce que là, vous faites une confusion complète. Quand on fait une distinction, quand on est arrivé à faire une distinction, il faut bien comprendre à quel niveau d'intelligibilité de la réalité se fait cette distinction. La distinction nature-forme, nature-matière, qui est devenue un système, hein, vous voyez bien, c'est Gilson lui-même dira que la distinction matière et forme, il dira matière et forme, l'illéformisme, comme on dira, et la grande distinction de toute la philosophie d'Aristote. C'est faux. C'est la distinction au niveau de la philosophie de la nature. C'est pour ça qu'il faut dire nature-forme, nature-matière. La première distinction entre matière et forme se fait à quel niveau? Elle se fait au niveau de l'art. C'est la première distinction. Quand vous distinguez matière et forme, intéressant de se poser la question. Quand est arrivée la première fois on a distingué matière et forme? On distingue matière et forme au niveau artistique. C'est ce que dit Aristote avec beaucoup de simplicité dans le livre des États, quand il dit par exemple, vous parlez d'un cercle, d'airain ou de pierre. Le cercle, c'est la forme. Airain, c'est la matière. C'est dans l'œuvre d'art que se découvre en premier lieu la distinction matière et forme. C'est dans l'œuvre d'art. Dans une œuvre d'art, vous distinguez en premier lieu matière et forme. C'est, vous savez, la chose courante. Votre dissertation est excellente pour la forme, malheureuse pour la matière. Vous savez bien ce que ça veut dire. Et cette distinction, on l'emploie n'importe comment. Et c'est vrai que c'est une distinction même que saint Thomas se sert constamment, parce qu'il distingue dans les sacrements matière et forme. C'est normal, les sacrements c'est une œuvre d'art. Donc je peux. Dans une œuvre d'art, vous avez parfaitement le droit de distinguer matière et forme. Vous dites cette statue, elle est de bois. Elle est de bois. Le bois est magnifique, mais la forme, la figura. Mais le bois est très beau, c'est un bois rare. Ça, on aurait pu faire quelque chose de un chef-d'œuvre avec. Le point de vue de la matière, c'est magnifique. Tout le monde comprend la distinction de la matière et forme. Il faut être un imbécile pour pas distinguer, pour arriver à ne pas comprendre la distinction. Vous voyez une statue, elle est de bois, matière. Et la figura, ça c'est la figure, c'est la forme. Donc, vous prenez cette première distinction. Vous transposez cette distinction. C'est ça qui est intéressant. C'est le passage, vous dites cette distinction, le passage du travail matière et forme. Parce que la matière, ce n'est pas moi qui l'a fait. Je travaille la matière et je lui induis une forme. Cette distinction, vous la retrouvez au niveau philosophie de la nature. Vous retrouvez la même distinction au niveau spéculatif. Mais c'est tout à fait autre. Parce que dans la nature, hein, vous ne pouvez pas mettre d'un côté la matière et de l'autre côté la forme. La distinction matière et forme au niveau artistique, tout le monde peut pas la saisir. Pourquoi ? Parce que cette distinction implique, peut impliquer une séparation. Vous pouvez mettre la même forme de cercle dans les reins et dans le bois, ou dans les reins et la pierre. Vous pouvez avoir une statue de bois et une statue de granit. Vous pouvez le faire. La même figure. Tout le monde comprend qu'il y a une distinction, puisqu'il y a une séparation possible. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on est dans l'ordre spéculatif, c'est qu'on ne fait pas la séparation. C'est vrai. Vous n'avez jamais vu l'âme humaine autrement dans un corps humain. Si vous aviez pu voir l'âme humaine dans du bois, imaginez ça. Un arbre qui serait et tout d'un coup une figure, ce serait extraordinaire. Les romantiques font des trucs comme ça. Si vous avez vu voir à travers un arbre, alors vous direz, ah oui, je comprends qu'il y a une distinction entre l'âme et le corps. C'est parce que de fait, on n'a jamais vu l'âme humaine se balader dans un corps autre que le corps humain et se informer du bois que vous n'acceptez pas la distinction. Parce que vous oubliez que distinguer et séparer, ce n'est pas la même chose. La séparation, c'est dans l'ordre de l'existence, la distinction, c'est l'intelligence. Alors vous transposez, comprenez bien, on transpose cette distinction au niveau œuvre d'art, on la transpose dans la réalité physique. Je peux le faire. Pourquoi ? Parce que l'œuvre d'art est corruptible. La matière d'une œuvre d'art peut disparaître. Pas la forme. Elle disparaît parce que la matière disparaît. Mais c'est la matière qui disparaît. Donc, ceci est nul. Si il est nul, il est corruptible. Cette première distinction provient de cela. S'il y a une distinction entre matière et forme au niveau artistique, c'est parce que la matière est corruptible. Vous retrouvez la même distinction au niveau spéculatif. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire fugit nature. Vous n'êtes plus au niveau pratique, vous êtes au niveau spéculatif. Et vous mettez nature-forme, nature-matière. Et vous comprenez que cette distinction est au niveau du devenir de ce qui est nu, et non pas au niveau de ce qui est. Cette distinction est vraie au niveau de ce qui est nu. Et toujours, tout ce qui est nu implique la distinction matière-forme. Tout ce qui est nu. Mais dès que vous êtes au niveau de l'être, la distinction est dépassée. Vous ne pouvez plus transposer au niveau de l'être cette distinction matière et forme. Vous êtes obligé de découvrir une nouvelle distinction. Quelle est cette nouvelle distinction ? Substance-qualité. Substance-relation. Substance-matière. Et ainsi de suite. Tous les prédicaments. Substance et accident. Donc, ce qui subsiste et ce qui inerte. Ce qui subsiste et ce qui est relatif à un autre. Donc ça, c'est au niveau de l'être. Alors dire, voyez, comme Gilson, que là, je prends Gilson parce qu'on a répété après. Quelqu'un comme Gilson dit quelque chose, ça se répète sans voir du tout si c'est vrai ou pas vrai. Quand Gilson dit que la grande distinction qu'Aristote a découvert, c'est la distinction de l'uniformisme, qui n'est pas Aristote, c'est pas Aristote qui l'a découvert, c'est Platon. C'est Platon qui a découvert la distinction entre matière et forme. Il a découvert avec une telle force qu'il l'a transposée pour tout. Alors ça c'est vrai que toute la philosophie de Platon est commandée par la distinction de matière et forme, mais pas toute la philosophie d'Aristote. Toute la philosophie de Platon est commandée par l'œuvre d'art. Toute philosophie qui est commandée par une œuvre d'art est une philosophie qui voit uniquement matière et forme. Toute philosophie qui est une méta-esthétique. Oui. Une méta-esthétique est commandée par les agents de matière et forme. Et ça, c'est vrai que tout platonisme est commandé par la matière et forme. L'âme et le corps. C'est tout absolument. C'est la forme en soi. Ce qui vous montre bien, ce n'est pas l'être, c'est la forme en soi. Donc on transpose. Tandis qu'au contraire, le prendre d'Aristote, c'est d'avoir compris la distinction matière et forme au niveau de ce qui est nu. Mais dès que je suis au niveau de ce qui est, ce n'est plus la même distinction. La matière n'intervient pas directement quand je suis au niveau de ce qui est. C'est la substance et la qualité. C'est la substance et les actions. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire grande attention. Hein. Quand je passe de la phusis à l'ousia, je suis en face de deux niveaux d'intelligibilité totalement différents. Et donc, il ne faut pas confondre. Et il faut comprendre que la phusis, elle est matière, elle est forme et matière. Et parce qu'elle est forme et matière, elle est aussi fin. Mais ce n'est pas une nouvelle distinction. Par la forme, il y a une détermination, et il y a une finalité qui s'introduit dans la nature. Par la forme. Tandis que la matière est cause d'indétermination, cause errante. Elle est cause du hasard. Donc de l'antiforme, de l'antifin. À cause de la matière, il y aura des monstres dans notre univers. À cause de la matière. S'il n'y avait que la forme, il n'y aurait pas de monstre. Il n'y a pas de monstre dans les anges. Il y a de gros anges. Il n'y a pas d'handicapés dans les anges. C'est impossible. Ils sont tous bien formés. Mais il y a des satans dans toute chose. C'est par leur opération, par leur choix. Mais au point de vue de leur être, ils échappent à la malformation de la matière. Tandis que nous, nous sommes faits d'argile, nous sommes faits Adam, terre rouge. On est fait comme ça, il y a la matière. Et parce qu'il y a la matière, il peut y avoir des choses monstrueuses. La chose monstrueuse, c'est l'indétermination qui l'emporte sur la finalité. Et donc, c'est la forme qui n'est pas assez forte pour conquérir totalement la matière. Et quand la forme n'est pas suffisamment forte pour conquérir totalement la matière, vous êtes en face de quelque chose qui va devenir monstrueux. Vous avez le hasard. C'est-à-dire quelque chose qui échappe à la finalité. Parce que le hasard, c'est tout ce qui échappe à la finalité. S'il n'y avait pas la finalité, vous ne pourriez pas parler de hasard. Vous parlez du hasard à cause de la finalité. C'est pour ça que le hasard ne peut pas être premier. Dire que le hasard est premier, c'est contradictoire in terminis. C'est contradictoire dans les termes. Parce que le hasard, toujours est conçu en fonction de la finalité. C'est ce qui échappe à la finalité. Donc, voyez, faisons attention de ne pas confondre la distinction au niveau de ce qui est nu et la distinction de ce qui est. Alors, dernière question. Si l'être est plus que la substance, comment faut-il comprendre ce que me dit Aristote ? Lorsqu'il affirme que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et l'interrogation « qu'est-ce que c'est que la substance ?» sont la même interrogation. Je vous avais déjà dit, je le répète, c'est très bien, il faut que ça rentre petit à petit. Premièrement, la substance ne peut pas s'identifier à l'être. Pourquoi ? Parce que les dix prédicaments, nous allons voir tout de suite du reste, la qualité implique un certain mode d'être. Or, la qualité n'est pas la substance. Donc, l'être implique la qualité, implique la substance. Je ne peux donc pas dire substance égale l'être. Mais au niveau de l'interrogation, et c'est ça qui est intéressant, l'interrogation, c'est quoi ? C'est l'intelligence qui veut connaître. Quand vous interrogez, quand vous êtes interrogé, vous êtes le chien de chasse de l'être, de l'intelligibilité. Vous voulez connaître. Une intelligence qui interroge est une intelligence qui veut saisir la réalité dans ce qu'elle est intelligible. Donc, quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» le « ti esti » de l'être, je dis que l'interrogation du « ti esti » de l'être et l'interrogation du « ti esti » de la substance, c'est la même interrogation. Ça ne veut pas dire que l'être et la substance sont la même réalité. Ça, c'est très beau à voir. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Ça montre que l'intelligibilité que vous saisissez n'est pas adéquate à la réalité. Donc vous échappez au positivisme, dès que vous avez compris ça. Parce que par l'interrogation, vous cherchez l'intelligibilité de la réalité. Et quand vous posez la question du « qui est-ce qui ?», vous voulez savoir ce qu'il y a de premier dans l'intelligibilité. Qu'est-ce qui est premier dans l'intelligibilité de l'être ? C'est la substance. La substance est premier dans l'être. Et donc chercher l'intelligibilité profonde de la substance revient à chercher l'intelligibilité profonde de l'être. C'est la même interrogation. Mais ce n'est pas la même réalité. L'être a une extension plus grande que la substance. Mais au point de vue de la compréhension plénière de l'être, c'est la substance.
La fois prochaine, nous commencerons à regarder le point de vue de la qualité.